15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, depuis 15 jours, nous nous mobilisons contre l'épidémie de coronavirus en France. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Et pour ce faire, il est tous les jours à mes côtés. Bon, chacun chez soi, mais l'équipe est toujours au complet, en direct pour vous. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mélanie.
Comment vous allez ?
Bah écoutez, ça va, on continue nos visites. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de malades de coronavirus, c'est 90 à 95% de mon activité, mais je pense que c'est partout pareil. Et j'ose pas imaginer comment c'est à l'hôpital, donc voilà, un peu de patience et de courage, on va y arriver.
Allez, au programme aujourd'hui, pour répondre à toutes vos interrogations, nous aurons bien évidemment des experts en ligne. D'abord, le professeur Rémi Salomon, il est président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. Avec lui, nous ferons un point sur la situation dans les hôpitaux dans la région, qui est donc la plus violemment touchée par cette épidémie. Comment s'organise l'ouverture de nouveaux lits en période de crise? A-t-on atteint le point de rupture? Les renforts humains arrivent-ils? Il nous détaillera tout ça. Après ça, nous accueillerons le psychiatre Antoine Pellissolo, qui nous expliquera les difficultés rencontrées dans sa spécialité dans les établissements psychiatriques depuis le début de cette crise sanitaire. Il nous donnera aussi quelques conseils pour les patients déjà atteints de troubles anxieux ou même de dépression avant ça. Ensuite, on est lundi, début d'une nouvelle semaine de confinement et déjà pour certains, les dégâts sur la balance de presque 15 jours coincés chez soi sont là. Entre quatre yeux avec son frigo, c'est un peu le problème. Chez moi, je vous le confirme, il y a déjà presque 2 kilos déjà sur la balance. Alors, on a demandé à un médecin nutritionniste, Patrick Serog, de venir nous aider à reprendre le contrôle de notre assiette. Enfin, pour terminer, une petite touche de douceur à la fin de cette émission, comme tous les jours, avec notre sexologue Catherine Blanc, qui va répondre à la question d'une auditrice.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Professeur Rémi Salomon, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au moment où on se parle de la situation dans les établissements de Paris et région parisienne?
Écoutez, la situation aujourd'hui est comme elle est depuis quelques jours, hein, une situation extrêmement tendue avec un afflux de patients continu, des services de réanimation qui sont pleins à craquer, on est proche de la saturation. Chaque jour, nous ouvrons des lits supplémentaires pour pouvoir accueillir les nouveaux patients qui arrivent. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. On a redéployé, réorganisé complètement toutes nos équipes pour que le maximum de personnel soignant, médecins, infirmiers, aides-soignants soient mobilisés dans ces unités de réanimation. Mais je vous cache pas que c'est compliqué.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de patients sont à ce jour hospitalisés dans les établissements de la PHP? Je sais qu'on a des chiffres tous les soirs au national, mais rien que pour la Paris et la région parisienne, c'est déjà énorme, je crois, à la part.
Oui, nous avons, alors je peux vous parler de la journée d'hier, je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui,
oui,
mais c'était plus de 3100 patients Covid hospitalisés à la PHP. Un total en Île-de-France, 7200. Donc vous voyez, la PHP prend une bonne part de cette hospitalisation des patients Covid. C'est plus de 730 patients en réanimation à la PHP, quasiment 1700 hier en Île-de-France. Là, je parle du service de réanimation, donc les patients les plus sévèrement atteints.
Jimmy Mohamed.
Professeur, nous avions le professeur Annet qui nous disait au service d'urgence à Avicenne que c'était pas tant le nombre de malades qu'il avait aux urgences qui lui posait problème, mais le nombre de malades à hospitaliser. Lui, il avait un taux quasiment à 50% de patients qui consultent aux urgences et qu'il devait garder. Est-ce que cet afflux massif de patients qu'on doit hospitaliser, on est toujours sur le même rythme sur les dernières 48 heures ou est-ce que on a un peu une phase de plateau quand même qui peut-être nous donne un peu d'espoir?
Alors, ce que je peux vous dire, je ne sais pas vous dire précisément sur le nombre de patients qui arrivent aux urgences et que l'on doit hospitaliser. Nous essayons au maximum, et les médecins de ville nous aident beaucoup pour faire un peu le tri et ne pas recevoir tout le monde à l'hôpital. Donc, beaucoup de patients, la grande majorité des patients atteints du coronavirus ont heureusement des formes qui ne sont pas si sévères et qui peuvent tout à fait être prises en charge à domicile. Et vous savez d'ailleurs qu'on a une plateforme de télémédecine, Covidom, qui permet de suivre je pense que nous sommes à plus de 20 000 patients qui sont suivis à distance par plusieurs centaines de médecins de la PHP et d'ailleurs. Pour ce qui est, nous, ce que nous regardons de plus près, ce qui est le goulot d'étranglement, c'est réellement les places en réanimation. Nous avons beaucoup de patients hospitalisés en dehors des services de réanimation et nous poussons les murs à chaque fois et nous pouvons les recevoir, mais c'est en réanimation que la situation est la plus compliquée. Donc nous ouvrons, comme je vous le disais, plusieurs lits dans tous les services de la PHP, plusieurs lits de réanimation chaque jour, mais chaque ouverture de lit nécessite du personnel en plus et c'est ça qui est de plus en plus compliqué à trouver.
Donc les effets du confinement, professeur Salomon, à ce stade, vous ne les sentez pas du tout, en tout cas dans les hôpitaux de la PHP?
Alors, nous avons, et vous avez peut-être entendu chez certains de vos confrères et peut-être sur votre antenne, depuis effectivement 24-48 heures, nous avons le sentiment que l'afflux dans les services de réanimation ralentit un peu. Et ça n'est pas uniquement le fait d'une diminution du nombre d'entrées, mais également le fait qu'un certain nombre de patients sortent de réanimation. Alors malheureusement, certains décèdent. Et d'autres, fort heureusement, sortent de réanimation parce qu'ils vont mieux. Donc ce qui fait que ça, c'est des patients qui étaient hospitalisés il y a une, deux, trois semaines et qui commencent à sortir des services de réanimation et donc nous permettent d'avoir un tout petit peu de marge, si vous voulez, pour accueillir de nouveaux patients.
Jimmy ?
Parce que justement, combien de temps on peut tenir à ce rythme ? Est-ce que vous avez une échéance en disant si ça ne s'améliore pas, si ça ne s'accalme pas, on sera à saturation totale dans 5-10 jours ? Est-ce que vous avez des projections ?
Vous savez, on est sur le fil du rasoir. On est proche de la saturation. Chaque jour, nous sommes proches de la saturation. Chaque jour, nous ouvrons des lits supplémentaires. Je ne vous cache pas qu'il faudrait que les choses, effectivement, que nous arrivions au plateau de cette courbe croissante qui n'arrête pas de croître, car effectivement, à un moment donné, on arrivera aux limites. Pour le moment, nous pouvons encore tenir. Nous envisageons éventuellement de transférer quelques patients, mais ça restera probablement quand même à la marge. Donc effectivement, il faudrait que nous arrivions maintenant au plateau dans les tout prochains jours. Nous pouvons espérer, et peut-être que l'infléchissement dont je vous parlais est peut-être un début, un frémissement de l'effet du confinement qui a été réalisé, je vous le rappelle, maintenant depuis 2 semaines. Et donc il est tout à fait possible que nous soyons actuellement dans la période où le début du confinement commence à faire son effet. Nous l'espérons tous.
Professeur Salomon, on en reçoit beaucoup de questions d'auditeurs en ce moment, notamment sur le hashtag Radio Ouverte. Et par exemple, on a eu celle au téléphone au 3921 de Marie. On va l'écouter si vous voulez bien.
Oui, bonjour. Pour demander si les cliniques accueillaient des malades du coronavirus. Voilà, j'entends toujours parler des hôpitaux, mais jamais des cliniques. Donc j'aimerais savoir si elles ont aussi des unités de réanimation. Merci beaucoup.
Professeur Salomon, pour répondre à Marie, est-ce qu'à la PHP, par exemple, vous avez déjà transféré des patients vers des cliniques privées ou pas du tout pour soulager un peu le service public ?
Alors, la réponse est oui. Alors, plus que des transferts, on a dirigé un certain nombre de patients, donc qui sont, en général, c'est le SAMU qui fait la régulation. Donc, il y a effectivement un certain nombre de cliniques, c'est les grosses cliniques qui ont des unités de soins critiques, de réanimation, prennent en effet des patients atteints du coronavirus. Donc, la réponse à votre auditrice est oui, les cliniques prennent aussi leur part de la prise en charge des patients atteints du coronavirus.
Jimmy ?
On a entendu aussi qu'il y avait des transferts de patients depuis les régions les plus débordées vers des régions qui ne sont pas touchées ou très peu touchées. C'est ce que vous faites à la PHP ? Est-ce que vous transférez des malades vers des zones où finalement, pour l'instant, on peut encore absorber certains malades graves ?
Alors, pour le moment, ça reste tout à fait anecdotique. Nous n'avons pas encore fait de transfert comme la région Grand Est en a fait, avec pas mal de patients. Pour le moment, je vous ai dit, c'est envisagé, mais ça n'a pas encore été fait à plus grande échelle que quelques patients.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Salomon. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement à l'APHP, reste avec nous juste après pour répondre à vos questions et pour nous parler aussi des renforts de soignants dont on a besoin au plus vite. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission toujours aujourd'hui, évidemment consacrée à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors, il est toujours en ligne avec nous, le professeur Rémi Salomon. Vous êtes le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Professeur Salomon, on a appris la semaine dernière le décès d'une jeune fille de 16 ans. Alors, évidemment, terrible nouvelle. Est-ce qu'on a actuellement actuellement beaucoup d'enfants hospitalisés. D'ailleurs, les hôpitaux pédiatriques sont-ils vraiment en ordre de marche? Parce que je sais que vous, en novembre dernier, vous alertiez déjà sur le manque de lits en réanimation pédiatrique.
Oui, alors ça c'était dans le monde d'avant. Hein. C'est vrai que nous avions des difficultés pour accueillir tous les patients. Vous vous souvenez, c'était la bronchiolite, c'était au mois de novembre-décembre. Donc c'est vrai que oui, nous avions des difficultés pour à certains endroits, hein, pour faire tourner les services, il manquait d'infirmières. Bon, là on a complètement changé d'échelle, donc c'est vrai qu'on a un petit peu oublié cette époque. Il faudra, après cette crise, évidemment que l'on réfléchisse bien tous ensemble comment reconstruire l'hôpital et faire en sorte que nous ne retrouvions pas à nouveau en difficulté lors de la prochaine épidémie, qu'elle soit de bronchiolite ou de coronavirus ou que sais-je encore. Donc oui, ça, il faudra être extrêmement vigilant. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, donc nous avons malheureusement déploré effectivement le décès de cette jeune fille de 16 ans. Événement dramatique, assez unique. Hein, c'est la seule jeune de cet âge-là qui soit décédée du coronavirus, à ma connaissance, à la PHP, je crois, en France. Donc les jeunes sont fort heureusement beaucoup moins atteints par les formes graves. Hein, ils peuvent avoir une infection coronavirus, mais c'est en général...
Anecker, vous n'êtes pas débordé, par exemple, non ?
Absolument pas. Donc d'accord. Nous ne sommes pas débordés. Nous avons quelques patients qui ont que nous suivons pour des maladies chroniques et qui, de ce fait, sont fragiles. Donc quand ils attrapent le coronavirus, on est très vigilants, ils sont hospitalisés, surveillés, mais nous n'avons pas déploré d'autres formes très graves que cette jeune fille qui malheureusement est décédée la semaine dernière. Il y a eu quelques autres adolescents qui sont passés quand même en réanimation, mais très peu.
Jimmy Mohamed.
Pardon. Oui, professeur Salomon, tout le monde parle de la pénurie de masques et autres matériels de protection. Mais je sais que vous avez alerté notamment des problèmes sur d'autres médicaments, notamment ceux qu'on utilise en réanimation, notamment les curares, enfin les sédatifs. Je sais que j'ai des amis qui m'expliquent qu'ils sont sur le fil du rasoir en périphérie. Alors c'est pas dans la PHP, mais que les produits anesthésiques commencent à manquer. Est-ce que nous sommes déjà en situation de tension, notamment, je ne sais pas, pour la morphine, de l'oxygène ou d'autres médicaments?
Alors, Je n'ai pas d'informations très précises sur les stocks disponibles. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des tensions sur certaines classes thérapeutiques. Facile de comprendre hein, que ces quelques molécules qui sont donc les sédatifs, le curare qui relaxe, hein, qui sert à relaxer les muscles respiratoires pour faire une bonne ventilation assistée avec la machine, qui sont des drogues qu'on utilise aussi d'ailleurs pour n'importe quelle intervention chirurgicale, hein, soit dit en passant, certains antibiotiques, ces médicaments sont utilisés, ce sont les mêmes qui sont utilisés dans tous les hôpitaux de la paix, mais dans tous les hôpitaux de France et dans tous les hôpitaux du monde. Et ils sont utilisés en quantité aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ce que l'on voit d'habitude. Donc ça, ces consommations ont explosé et vont continuer de monter encore dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc très naturellement, si vous voulez, il y a une forte inquiétude. Vous vous souvenez, même dans le monde avant, il y avait de temps en temps des pénuries. Hein, vous vous souvenez,
il y en a beaucoup même, oui, bien sûr, on en a parlé souvent sur cette antenne. Oui.
Et on sait que malheureusement, et ça aussi, je pense qu'il faudra qu'on revoie pour après, malheureusement, nous sommes dépendants pour la fabrication de la plupart de nos médicaments, de la Chine et de l'Inde. Et donc, vous imaginez bien aujourd'hui les tensions qu'il peut y avoir sur la scène internationale pour récupérer ces matières premières et fabriquer ces molécules dont nous avons un besoin vital. Si jamais nous sommes amenés à manquer d'une de ces molécules, ça risque d'être assez... Quand je dis assez compliqué, c'est un euphémisme, ce serait catastrophique.
Autre pénurie, professeur Salomon, encore plus terrible, si je peux dire, ça peut être celle des soignants. Certains tombent malades, déjà, on le voit, il y a eu des décès. On imagine bien qu'il faut bien que les équipes se reposent aussi. Vous faites vraiment appel, là, un appel, vous l'avez fait il y a quelques jours, mais vous continuez un appel à la mobilisation générale ?
Oui, absolument. Nous avons effectivement cet appel. C'est aujourd'hui, j'ai refait encore ce matin un message aux 13 000 médecins de la PHP. Les doyens sollicitent les étudiants en médecine. Les dentistes libéraux m'ont contacté et sont très nombreux à venir nous rejoindre et je les en remercie. Donc oui, nous faisons appel à toutes les professions de santé pour rejoindre les unités où sont hospitalisés les patients atteints du coronavirus. Il faut tenir dans les jours qui viennent, mais il faut tenir encore plus que les jours qui viennent. Ça va durer quelques semaines. Et donc, c'est vrai, je redoute, hein, que les équipes s'épuisent, car le rythme est effroyable, physiquement et moralement. C'est vraiment difficile. Donc, il faut vraiment du renfort pour que ces soignants puissent, de temps en temps, lever un peu le pied, se reposer et pas se retrouver en burn-out d'ici quelques semaines, car ce serait là, effectivement, une difficulté supplémentaire.
J'en profite juste pour donner le numéro de la PHP pour se porter volontaire, c'est le 0805 280 270. Jimmy ?
Et professionnellement, vous appelez aussi à matraquer encore et toujours les messages sur les gestes barrières dans la population, notamment à la création de brigades citoyennes pour désinfecter les halls d'immeubles, les poignées de porte, en faisant ça chacun d'entre nous. On peut vraiment aider en faisant ça?
Oui, c'est vrai que j'ai pas mal insisté ces derniers jours sur les gestes, ce qu'on appelle les gestes barrières, car je trouvais que dans la communication du gouvernement, on n'insistait pas assez sur ces détails qui sont pourtant si importants. C'est vrai, quand vous sortez de chez vous, ce qui est dangereux n'est pas tant de croiser quelqu'un, car en général, on fait attention, on prend ses distances. Et j'ai remarqué que dans la plupart des magasins, les gens sont assez respectueux des distances de sécurité. Non, ce qui est dangereux, c'est le bouton de l'ascenseur. C'est la poignée de la porte de votre immeuble. C'est quand vous allez au supermarché, la caisse sur laquelle vous allez toucher et que d'autres ont touché avant vous. Là, vous pouvez effectivement récupérer, mettre sur vos doigts le coronavirus qui a été déposé par quelqu'un d'autre. Il suffit que vous mettiez ensuite, et ça c'est des gestes tout à fait inconscients, la main à la figure, et à ce moment-là, vous êtes contaminé. Donc il faut être extrêmement attentif à tout ça.
Il faut qu'on devienne tous obsessionnels.
Voilà. Quand vous avez touché quelque chose qui a pu être touché par quelqu'un d'autre, vraiment vous vous concentrez pour ne pas mettre vos mains au visage, jusqu'à ce que vous soyez rentré chez vous et que vous soyez lavé les mains avec de l'eau et du savon. Et vous nettoyez toutes les surfaces qui ont pu être touchées par d'autres avec du détergent.
Merci beaucoup, professeur Salomon. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. On sait que vous êtes très occupé en ce moment, évidemment. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient avec un focus sur la situation en psychiatrie dans cette crise sanitaire. Le psychiatre Antoine Pellissolo sera notre invité. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans Rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone le professeur et psychiatre Antoine Pellissolo. Bonjour.
Bonjour.
Professeur Pellissolo, je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Alors, avec vous, on voulait faire un point sur la situation dans les services psychiatriques hospitaliers avec cette crise. Chez vous, par exemple, ça se passe comment depuis quelques jours, quelques semaines?
Alors depuis effectivement au moins 2-3 semaines, nous avons modifié pas mal de nos pratiques, à la fois d'organisation de l'hôpital lui-même, de l'hospitalisation des patients, mais également du suivi des patients en consultation. Pour l'hôpital, c'est beaucoup de protection des malades, de s'arranger pour qu'ils n'aient pas trop de contact les uns avec les autres, ce qui est difficile hein, quand on est hospitalisé assez longtemps, de supprimer quasiment toutes les visites extérieures, donc malheureusement ils ne peuvent plus facilement rencontrer leur famille, et c'est aussi assez douloureux en général, et puis ils ne sortent quasiment plus du service lui-même. Donc ça, c'est vraiment des organisations vraiment rendues obligées par ces risques de contamination. Et puis également, on protège et on fait très attention à toutes les pratiques du personnel, de tous les personnels soignants, pour qu'ils soient les mieux protégés possible.
Jimmy ?
Parce que justement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des médecins, des urgentistes, des réanimateurs, mais très peu de la protection des autres professionnels de santé, et notamment les psychiatres, et vous avez parlé de la protection. Est-ce que vous êtes suffisamment protégé ?
Alors, je crois qu'on a au départ eu un petit peu de difficulté, notamment à obtenir les moyens de protection, hein, comme un peu partout, les masques en particulier. Il y a des services de psychiatrie, ou plutôt même des hôpitaux psychiatriques qui étaient un petit peu oubliés dans le paysage hospitalier. Ça dépend un peu des services et des hôpitaux. Aujourd'hui, on est un peu mieux doté. On dirait qu'on a à peu près ce qu'il faut. Il faut toujours faire très attention. Il peut y avoir des manques d'un jour à l'autre, mais c'est vraiment essentiel parce qu'on sait bien que tout le monde peut être contagieux à un moment donné, tout le monde peut être malade et ça peut être grave dans certains cas. Donc il faut vraiment arriver à protéger un dispositif un peu complexe parce que ça va des urgences aux consultations et jusqu'à des lieux d'hospitalisation où beaucoup de personnes en fait passent sur une journée.
Bien sûr. Et je crois que votre profession, il y a pas mal de praticiens qui ont basculé quand même vers la téléconsultation. Ça s'y prête en psychiatrie, mais on est d'accord, c'est pas toujours possible. Il y a des populations qu'il faut absolument que vous voyez, que vous suiviez des patients, vous devez les voir absolument.
Oui, il y a des situations assez complexes, mais bon, elles sont relativement peu nombreuses, mais des malades qui sont très dépendants, qui ont du mal à communiquer, qui déjà ne comprennent pas bien la situation. Il y en a certains qui ont des troubles mentaux qui perturbent évidemment la compréhension du réel, même si beaucoup s'adaptent, hein, il faut pas non plus généraliser, beaucoup s'adaptent bien, parfois même mieux que la population générale, mais d'autres ont du mal à comprendre et de toute façon, manque de moyens de communication. On dit beaucoup, il suffit de téléphoner ou faire des téléconsultations. Nous, on est confronté à beaucoup beaucoup de personnes qui n'ont pas ces moyens-là, qui ne savent pas s'en servir ou qui ne disposent même pas de téléphone. Donc, voyez bien, dans ces cas-là, il faut soit les accueillir sur place, quand elles ont leurs habitudes de consultation dans un lieu, soit même aller les voir à domicile. On fait encore quand même beaucoup de visites à domicile avec des équipes qui tournent dans les villes autour de nos hôpitaux.
Jimmy ?
J'ai dû intervenir la semaine dernière dans un foyer où il y avait des personnes plutôt fragiles et des patients avec des antécédents psychiatriques qui sont un peu en plus précaires. Et j'ai l'impression que c'est difficile de leur faire comprendre les mesures barrières. Ils étaient collés les uns aux autres, ils refusaient de mettre des masques. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez finalement, justement dans la population que vous suivez, de faire respecter les mesures barrières ?
Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Les troubles psychiques, c'est très varié. Donc, avec beaucoup de personnes, ça se passe bien. Avec certaines qui ont, comme vous disiez, à la fois des troubles de la compréhension, c'est un peu comme les personnes très âgées ou qui sont très avancées donc dans certaines maladies de l'âge. Certains ont du mal à comprendre. Et puis, certains sont très instables au plan même du comportement. Donc, quand on a quelqu'un qui est agité toute la journée, qui refuse de l'aide, hein, très souvent, parfois, on intervient malgré un refus de soins, quand c'est vraiment indispensable. Donc, porter le masque, respecter les mesures barrières, rester dans sa chambre, c'est pour certains à la fois incompréhensible, ils ne saisissent pas la nécessité, et puis impossible à respecter physiquement. Donc, c'est là qu'on a besoin d'appliquer sûrement des procédures un peu différentes. Alors, ça aussi, on a un peu de mal à le faire comprendre à nos collègues d'autres spécialités, parce que on a des demandes un peu particulières, si possible, de tester plus souvent les malades qu'on le fait habituellement à l'hôpital, parce qu'on sait bien qu'on aura du mal à isoler les uns des autres. Donc ça demande sûrement des applications un peu différentes des règles barrières à cette population.
Professeur Pellissolo, il y a aussi tous les patients, là on vient de parler de la situation à l'hôpital, mais il y a tous ces patients qui sont suivis dans la vraie vie avant l'épidémie pour un trouble psychiatrique, qui sont, je sais pas, atteints de dépression ou qui avaient des troubles anxieux par exemple. Ça doit pas mal décompenser, non, dans ces moments-là depuis quelques jours, quelques semaines?
Oui, alors évidemment, il y a la peur, hein, qui est la peur au départ de l'épidémie.
Nous tous, on a peur, hein.
De la maladie, bien sûr. Alors, la peur, normalement, ça permet aussi de se protéger, donc c'est pas forcément inutile. Mais pour des personnes très sensibles, très angoissées par la maladie et par l'idée d'attraper le microbe, ça peut devenir un stress très très intense. Et en plus, se rajoute en ce moment, depuis donc plus de 15 jours, le fait d'être enfermé chez soi. Pour certains, c'est vivable, et puis pour d'autres, vous savez, ceux qui sont un peu claustrophobes, qui ont vraiment besoin de contact, c'est une source d'angoisse supplémentaire. Donc tout ça demande de l'accompagnement et on essaye d'y répondre au mieux. Ceux que nous connaissons, on continue à les suivre vraiment de manière assez rapprochée à distance, en fin de consultation, notamment téléphone. Et puis d'autres, on leur propose, il y a de plus en plus de numéros, d'appels pour essayer de venir en aide au plan psychologique à des personnes qui souffrent de cette situation.
Merci beaucoup professeur Pellissolo d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite évidemment. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec une émission consacrée donc aux questions que vous vous posez sur le coronavirus, vous l'avez compris. Et autre conséquence de cette épidémie, à force de rester chez soi, on ne fait que manger n'importe comment ou trop, surtout si on est particulièrement sensible au stress ambiant. Nous serons en ligne avec le médecin nutritionniste Patrick Serog. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Sans Rendez-vous revient dans un instant avec les réponses aux questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Mais avant ça, on va se détendre avec un peu de musique. Je vous propose d'écouter Les Brigitte. Ça s'appelle « Allô, tu m'entends ?»
J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en vont rapides, iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Ici, même sous la pluie, l'auteur me poursuit d'un peu d'estérène. Je suis dans la cabine, enfermée dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bal qui s'ouvre sur la mer. Allô, allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël? Dis-moi, tes amis vont-ils toujours près des îles, pêcher les girelles? Ça nous fait chercheur et pour moi dis que s'est-il passé. Qu'est-ce que ta voix me cache, avec qui ce soir vas-tu danser. Allô, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu m'attends, ta bouche où est-elle. Allô, tu parles trop bas, seras-tu là-bas si je te rappelle. Il faut que je te quitte, d'autres gens s'impatientent dehors. Et je t'ai parlé trop vite, je ne t'ai presque rien dit encore. Allô, allô, tu m'entends, dehors on attend, les gens sont pressés. Dans cette course de fou, le monde se fout d'un amour cassé.
Ça fait du bien de la musique sur Europe 1. C'était les Brigitte avec leur morceau Allô, tu m'entends, une reprise d'un des titres que vous avez reconnu de Guy Béard qui vient de sortir.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. Alors depuis deux semaines, vous l'avez compris, notre émission s'adapte. Évidemment, nous restons mobilisés pour vous informer. Mais depuis chez nous, on est chez vous hein, en direct. Alors à présent, on accueille par téléphone, lui aussi, le docteur Patrick Sérogue. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin nutritionniste et je suis particulièrement très contente que vous soyez là parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais chez moi c'est déjà du grand n'importe quoi. 2 kilos au moins sur la balance, je sais pas. Est-ce que c'est normal tout ça ou pas déjà ?
Ah oui, c'est un petit peu normal. Dans le confinement en général, la dépense énergétique diminue d'environ une quinzaine de pourcents. Vous avez, même si vous ne faites pas plus de sport ou moins de sport, toujours est-il que vous bougez beaucoup moins parce que nous sommes confinés. Donc, il faut déjà modifier son alimentation dès le départ pour pouvoir ne pas prendre du poids.
On va passer au conseil après, mais vous, vous avez écrit un livre en plus qui tombe à pic hein, pour se débarrasser des kilos émotionnels. Combien en moyenne on risque tous de prendre là pendant un confinement qui pourrait durer 5, 6 semaines, peut-être plus, si on fait rien de, si on change rien, je veux dire hein.
Oui, alors ça dépend de chaque individu, comment il va se comporter et aussi sa propension personnelle à prendre du poids. Quand vous avez déjà un surpoids, vous avez plus de facilité à reprendre des kilos supplémentaires.
Ah oui, c'est pour ça que 10 000, pouvez... on est déjà à 12. Moi, je suis à 2, mais bon. Hein.
Le pauvre. Mais en tout cas, oui, on peut aller, c'est vrai, on peut aller de 1 à 2 kilos jusqu'à une dizaine de kilos facilement.
Ah oui? Ah oui, quand même, Jimmy, à vous, hein, parce que je crois que ça vous intéresse particulièrement.
Oui, oui, non, mais écoutez, moi j'ai pris un parti pris. Vous allez me dire s'il est dangereux, notamment pour l'organisme, mais aussi pour ceux qui nous écoutent. J'ai décidé de mettre une parenthèse pendant quelques semaines, d'accepter de faire n'importe quoi dans mon assiette, d'accepter de prendre quelques kilos, et je me dis, on verra plus tard. Est-ce que je prends des risques en faisant ça ?
Ben, c'est-à-dire, c'est pas une bonne idée si vous avez déjà un surpoids. Parce que si vous avez un surpoids, vous aurez plus de mal après à reperdre ces kilos que vous prenez. Quand vous n'avez pas de surpoids, vous n'êtes pas programmé du tout pour prendre du poids. Quand vous allez les prendre, dès que vous allez sortir du confinement, vous allez les reperdre naturellement, mais pas les autres. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte d'injustice, hein, on n'est pas tous pareils et on ne réagira pas pareil après le confinement. Mmh.
Mais est-ce que c'est grave pour l'organisme d'ailleurs de boulotter comme ça, de prendre la méthode Jimmy, je me dis pendant quelques semaines je fais n'importe quoi. Est-ce qu'il peut y avoir de vraies conséquences sur l'organisme en dehors de la prise de quelques kilos, je veux dire ?
Alors oui, il peut y avoir des conséquences, puisque au-delà d'un certain poids limite, vous avez un organisme qui métaboliquement va se dérégler. Vous pouvez avoir une glycémie qui va augmenter et pourquoi pas déclencher à cette occasion-là un diabète.
Oui.
Vous pouvez avoir une augmentation des triglycérides, qui est une graisse dans le sang qui augmente facilement avec une alimentation plus abondante et qui présente des risques cardiovasculaires. Et surtout, vous n'avez aucun intérêt à prendre du poids par rapport à une infection comme le Covid-19, puisque vous savez que plus on est gros et plus on a des problèmes de diabète, plus on a un risque en fait de complications. Donc on n'a pas intérêt. Et puis c'est pas très agréable, il faut dire ce qui est. Si on reste pendant un mois et demi en confinement ou deux mois en confinement, si on sort de là avec 5, 6 kilos, c'est vraiment pas très agréable. Alors qu'on peut très bien arriver à pallier à ça. Hein.
Alors justement, Jimmy, on va passer au conseil, allez-y.
Bah oui, parce que les courses, on a tendance à vouloir faire des stocks pour éviter d'aller au supermarché et éviter justement de circuler, de voir beaucoup de monde. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de remplir le frigo à ras-bord pour tenir le plus longtemps, ou finalement, ce n'est pas une très bonne idée parce qu'on va être tenté de manger?
Alors, c'est une très bonne idée de remplir son frigo et son congélateur, quand on en a un, à ras-bord, pour éviter de sortir au maximum, puisque malheureusement, c'est en sortant qu'on s'expose, de toute façon.
Donc, ça, c'était une bonne idée.
Mais ça, c'est une bonne idée. Mais par contre, ça dépend ce qu'on va acheter.
Comment on fait les courses? Parce que moi, j'ai rempli, j'ai mis n'importe quoi dedans.
Voilà, on achète, on vide les magasins de leurs pâtes, du riz.
J'ai pris ce qui restait de gâteau, j'ai vidé un peu le rayon de gâteau, je crois.
Voilà, exactement. Alors, non, mais c'est un bon moment. C'est intéressant ce que vous dites sur les gâteaux. Parce que c'est un moment où on a envie obligatoirement de se faire un peu plus plaisir que d'habitude, puisqu'on est là toute la journée ensemble.
Mais franchement, elle est réconfortante, ma pâte à tartiner après l'émission. Hein. Je vous l'avoue, ça fait du bien quand même.
Voilà, mais vous pouvez par contre faire la cuisine. On a le temps aujourd'hui. On peut se faire des desserts qui seront en tout cas parfois beaucoup moins caloriques que ce que vous allez trouver à l'extérieur et qui permettent de passer un temps qui est assez sympathique.
Hein donc, en fait, il faudrait mieux aller faire les courses avec une liste bien précise, en fait, finalement, avec des menus peut-être.
Oui, il faut vraiment la liste. Il faut d'abord essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger tous les jours. Bon, en général, je vous donne le conseil, on ne s'aperçoit pas qu'on change d'alimentation si on fait un programme sur 3 semaines. Voilà.
Ah oui. Hein
Quand on fait un programme sur 3 semaines, eh bien, la 4e semaine, quand on recommence à la 1ère semaine, on ne s'aperçoit pas qu'on mange la même chose.
Voilà. Ah oui, c'est ça, on ne se lassera pas de recommencer le même programme sur 3 semaines, quoi, c'est ça. D'accord.
Voilà, parce que si jamais vous faites ça sur une semaine et que vous recommencez toutes les semaines la même chose, au bout d'un moment, vous craquez, parce que ça devient insupportable, voilà.
Et on peut plus arriver. Et des menus précis sur 3 semaines, et ça permet de varier.
Voilà.
On
essaye ensemble de se faire, puisque si on est en famille, ou même si on est célibataire, on essaie de se faire une liste avec ce qu'on a envie de manger, et on essaie d'organiser des repas sur 3 semaines, et on fait ses courses en fonction de ça.
Il faut avoir de l'imagination quand même, parce que moi là, déjà au bout de 15 jours, je commence à tourner en rond un peu, au niveau idée, ça commence à être un peu difficile, je trouve.
Oui, c'est difficile parce que comme vous n'avez pas fait de plan au début, alors vous vous retrouvez effectivement avec les mêmes idées qui vous reviennent tout le temps.
Je vais faire un plan.
Voilà. Mais essayez de faire un plan et vous allez voir que vous allez trouver, et il y a plein d'aides pour vous si vous allez sur Internet.
Oui, ça.
Vous avez plein de plans de menus qui sont différents et qui vont
des dizaines de livres de cuisine que j'ai jamais ouverts, c'est l'occasion, je crois.
Ben oui, voilà, c'est l'occasion d'ouvrir un peu ces livres de cuisine et d'essayer de se faire. Et c'est beaucoup plus gratifiant de se faire un plat qu'on a préparé soi-même pendant un certain temps.
Allez, merci docteur Serroc, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient avec la suite de nos conseils nutritionnels et du pratique pour éviter la catastrophe sur la balance à la fin du confinement et même tout simplement pour rester en bonne santé, parce que c'est ça le plus important, ça commence bien souvent dans notre assiette. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et lui aussi, il est toujours en ligne avec nous. C'est le docteur Patrick Serroc, médecin nutritionniste à Paris. Docteur Serroc, on va passer un peu plus dans le détail dans notre assiette en période de confinement. Alors on le sait, certains craignant les pénuries de vivres, on en a parlé tout à l'heure dans les supermarchés, ils ont acheté des kilos de produits secs type pâtes, riz, semoule. Bon, ça, il ne faut pas en manger quand même à tous les repas des pâtes, non? On est d'accord?
Non, je pense qu'en période de confinement, une fois par jour, c'est suffisant.
Vraiment. D'accord, pas plus.
Les féculents, c'est suffisant. Ce qui est très important dans cette période de confinement, c'est de faire des repas. C'est-à-dire de ne pas dire, par exemple, je vais juste prendre un plat pour le déjeuner, je vais prendre un morceau de poulet avec des pâtes, admettons, voilà, et puis voilà. Parce que dans ce cas-là, dans l'après-midi, vous allez avoir envie de manger, vous aurez faim en plus, donc là, vous risquez de manger n'importe quoi, parce que ce n'est pas un moment de repas. Donc, il vaut mieux vraiment faire des repas.
Jimmy ?
Et justement, est-ce que lorsqu'on doit rester à la maison, puisqu'on est en télétravail aussi, finalement, on peut rester à la maison si on doit garder les enfants, est-ce qu'il est important de conserver ses repas et surtout l'heure des repas? C'est-à-dire qu'on mange comme d'habitude à midi si on mange à midi, le goûter pour les enfants à 16h et puis le soir vers 20h-21h, ne pas chambouler finalement l'organigramme en se disant « bon, de toute façon, je suis à la maison, peu importe si je mange à 11h ou 15h, on s'en fiche ».
Oui, vous avez raison, la ritualisation est extrêmement importante. Plus on est confiné, plus on doit être ritualisé. Donc il faut faire un repas à une heure à peu près fixe, c'est-à-dire que si c'est 12h30, on peut manger à 12h45, oui. C'est pas le problème. Mais il faut rester dans ce moment du déjeuner, il faut se dire qu'on aura une petite entrée, un plat principal, à l'étage, un dessert, parce que ça sera obligatoirement une quantité alimentaire suffisante pour ne pas avoir envie de grignoter toute l'après-midi. Oui. Ça, c'est aussi important. Et le soir, eh bien, on va se refaire un repas également, de la même manière, sauf qu'au lieu des féculents deux fois par jour, on ne les prendra qu'une seule fois par jour et on ajoutera des légumes à chaque repas.
Et donc, vous disiez les légumes, c'est important, les produits frais. Par contre, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes cours, j'en ai pris un petit peu, mais comme on en prend d'avance, ça ne se conserve pas aussi longtemps qu'on voudrait. Est-ce que les légumes surgelés, c'est une bonne option ou pas ?
Voilà, c'est une très bonne option. Les légumes surgelés, c'est une bonne option, d'une part parce que ce sont des produits qui ont été traités immédiatement après la cueillette, c'est-à-dire qu'on les a blanchis, tout simplement. Et ensuite, on peut les utiliser en ajoutant la quantité de sel, de poivre que l'on veut dans les conserves, qui sont aussi un dépannage très agréable. La quantité de sel est supérieure puisqu'on les sale obligatoirement et parfois on les sucre un peu pour pouvoir les conserver.
Mmh. Donc surgelé, c'est bien en tout cas.
Donc surgelé, c'est très très bien.
Mmh. Jimmy ?
C'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière où on est tous stressés à des degrés plus ou moins variables, mais est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un aliment ou deux qu'on pourrait manger qui serait, je ne sais pas, riche en magnésium et qui peut-être pourrait nous détendre un petit peu ou nous aider dans cette période ?
Alors, bien sûr, il y a toujours le chocolat qui est un bon aliment.
Voilà, moi j'avais tout compris.
Ah, voilà. Et le chocolat, c'est une bonne idée. Simplement, il faut pouvoir le grammer, comme on dit, de manière satisfaisante. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, manger 30 grammes par jour. Alors, c'est beaucoup, 30 grammes, ça a l'air de rien, mais 30 grammes serviront un tiers de tablette, d'une tablette de 100 grammes. C'est aussi 5 à 6 morceaux de chocolat. Donc, on peut se les répartir dans la journée, ou bien on peut se les prendre d'un coup, comme on veut.
Chocolat noir, j'imagine, pas du chocolat blanc,
du
chocolat
au lait.
Non, pas forcément, je pense que
chocolat. Le chocolat blanc n'est pas un chocolat. Le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao uniquement.
Mais j'arrive pas à l'accepter, je sais.
Non, mais on peut en prendre même si on a envie. C'est pas un problème. On est là pour se faire plaisir pendant un moment. Et le chocolat au lait, c'est très bien. Le chocolat noir, si on aime. Et puis, on se prend 30 grammes. Et avec ça, en fait, on peut tout à fait tenir la journée. Surtout qu'on sait que ça va se répéter le lendemain.
Bien sûr. Jimmy ?
Et boire, finalement, c'est important de ne pas oublier. Ça paraît un peu bête, mais j'ai l'impression qu'on boit moins lorsqu'on reste à la maison. C'est un réflexe qu'on perd, mais pour autant, il faut qu'on fasse attention.
Oui, vous avez raison. En plus, comme il fait froid actuellement, les appartements sont plus chauffés et on a une déshydratation qui est plus importante. Donc, on a intérêt à boire plus.
Alors là, mais de l'eau, on est d'accord, pas d'alcool, parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal de connaissances qui boivent un peu plus d'alcool que d'habitude.
Oui, vous avez raison. De l'eau, mais pas que de l'eau. On peut prendre du thé, on peut prendre des tisanes, on peut prendre du café, on peut prendre des tas de boissons autres que l'eau, mais il faut les répartir dans la journée. Il faut en boire au cours de la matinée, il faut en boire au cours de l'après-midi. On peut se faire plusieurs thés si on a envie, ou de tisanes au cours de l'après-midi. Ça, c'est bien. Vous avez raison de souligner le problème de l'alcool, parce que dans ces périodes-là, on voit bien qu'il y a des achats d'alcool qui sont nettement supérieurs à ceux d'habitude. Et c'est vrai que là, il faut faire très attention. Parce
ça fait grossir l'alcool aussi, hein, faut le rappeler. Parce que Alors, bien sûr, c'est très mauvais pour la santé, pour plein d'autres raisons. Mais là, on parle de nutrition, de poids. L'alcool, pour grossir, ça, c'est idéal. Hein.
Oui, ça fait grossir. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de se limiter en nombre de verres. Et il faut se fixer une règle. Voilà. Par exemple, on peut se fixer la règle de ne boire qu'un seul des deux repas.
Mmh. Pas tous les jours déjà aussi.
On peut se fixer une règle de ne pas boire tous les jours. De dire, ben tiens, je vais faire deux jours ou trois jours sans alcool et puis après je me prendrai un verre de vin. Il y a beaucoup, vous savez, d'apéritifs avec les amis qui se font par Skype ou par Zoom ou par un autre moyen, ou FaceTime. Et donc là, il y a des consommations d'alcool qui sont nettement supérieures. C'est-à-dire qu'en fait, on multiplie ces occasions-là et ça en fait finalement un peu plus dans la semaine. Donc là aussi, il faut faire attention parce que ça va très vite. Si on reste une heure avec des copains, on peut facilement boire la bouteille de vin à deux.
Ben oui, bien sûr, monsieur. Donc, faire très attention à ça aussi. Merci beaucoup, docteur Patrick Serroque, pour tous ces conseils pour garder donc un équilibre alimentaire à peu près correct en cette période si difficile pour tout le monde. Merci. Dans un instant, un peu de douceur, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Mais avant ça, on se met donc dans l'ambiance, en musique, avec un duo, Lily Allen, et Ours. Ça s'appelle 22. Ça fait du bien ce duo Lily Allen et Ours, ça s'appelle 22 et c'est sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Le week-end a été bon ?
Écoutez, ce sont des jours. En fait, il y a plus de week-end. Il y a toute la semaine ressemble à la semaine ou toute la semaine ressemble au week-end selon
c'est
les.
Plus trop.
Et voilà, c'est ça.
Mais vous allez nous aider à garder le cap. En tout cas, nos auditeurs, nos auditrices, là en l'occurrence, continuent à nous envoyer des questions pour vous. Là, vous allez répondre à la question de Béatrice, 47 ans, pardon, que je vais vous lire tout de suite. Je suis maman d'un ado de 14 ans. J'ai peur que le confinement pousse mon fils à s'aventurer sur des sites pornographiques. Qu'en pensez-vous et que dois-je faire pour que cela n'arrive pas ? Catherine, d'abord, ce que l'on peut dire, c'est que la période de confinement, c'est vrai, ça laisse plus de temps à un adolescent pour réfléchir et donc tout simplement à se poser déjà des questions sur sa sexualité qui peut même pas assouvir, entre guillemets.
Absolument. De toute façon, en temps habituel, il fait déjà ça. Simplement, évidemment, il a un rythme qui est le rythme scolaire, le rythme amical, qui fait qu'il lâche ses préoccupations, notamment ses préoccupations sexuelles, qui sont tout à fait légitimes, bien sûr. En temps habituel, il va éventuellement surfer ou poser des questions à droite et à gauche. Et là, c'est vrai que le confinement peut l'amener à être plus désœuvré, plus en interrogation, plus en excitation intellectuelle et physique, qui l'amène peines en surfant, à tomber éventuellement sur la pornographie et chercher un peu plus avant sur ce sujet.
Ouais. Jimmy ?
Mais est-ce que d'une façon générale, l'ennui, ça peut accentuer la consommation de pornographie ou même l'isolement ? On sait que certains, du coup, se retrouvent seuls à la maison. Est-ce que ça dépasse peut-être le cadre de cet adolescent, mais est-ce qu'on peut plus consommer de la pornographie à ce moment-là ?
Vous avez raison, en fait, l'ennui fait souvent la déprime quant à soi et sa capacité. Puisque quand on s'ennuie, ça veut dire qu'on n'est pas capable de créer quelque chose qui nous fasse du bien. Tiens, si je faisais ça, tiens, j'en profitais pour ou téléphoner un tel, ou faire ceci, ou faire cela. Et du coup, il y a une idée un peu d'absorber des informations tous azimuts, un peu comme de façon boulimique, sans prendre le temps de les mâcher, sans prendre le temps de les décider vraiment, de se les approprier. Et la pornographie, évidemment, renvoie à ce qu'on ne peut pas faire ou à ce qui fait notre curiosité, mais à la fois on n'est pas acteur, on est simplement voyeur, donc ça renforce le côté dépressif de l'individu. Ça n'a jamais participé de l'éduquer ou de le faire grandir dans son cheminement sexuel personnel. Et ça c'est vrai, en effet, vous avez raison, pour les adultes comme pour les adolescents.
Et Catherine, pourquoi ça inquiète Béatrice particulièrement ? Je ne sais pas si elle s'en inquiétait avant le confinement, avant l'épidémie, mais là c'est énorme. Enfin, elle aussi, elle a plus le temps de penser à ce genre de questions. Pourquoi elle s'inquiète pour son ado maintenant ?
Oh, il me semble que c'est certainement la question d'une maman en général qui a du mal évidemment à savoir ce qui se passe dans ce domaine-là et qui craint évidemment l'influence de la pornographie qui, reconnaissons-le, n'est pas une influence bénéfique pour la construction de l'individu, qui plus est du jeune individu, puisque ça lui donne une idée d'une sexualité, d'abord qui n'existe pas puisque c'est un montage, rappelons-le, et en plus c'est un montage sur une sexualité d'adulte, alors que lui, il lui faut déjà conquérir les premiers émois, les premiers gestes, les premières tentatives érotiques, et cette pornographie évidemment le bouscule et puis l'enferme, puisqu'il n'est pas dans une confrontation avec les jeunes gens de son environnement et les jeunes filles en l'occurrence le cas échéant, donc du coup évidemment que c'est une question de maman qui s'interroge parce que peut-être elle a un enfant plutôt renfermé, plutôt dans la difficulté de communication avec ses copains et ses copines. Généralement, les mamans qui sont inquiètes sur ce sujet sont celles qui savent leurs enfants déjà en difficulté relationnelle en temps habituel, un peu renfermés, et craignent évidemment que dans ce temps qui est le moment de grands émois sexuels, des grandes interrogations, et que finalement ce ne soit pas la société de ses pères qui peut être au rendez-vous de ses réponses, mais bien de ses pères. Alors là, je décrirais plutôt avec comme le père. C'est-à-dire avec une sexualité d'adulte dans laquelle il vient regarder et qui a tout lieu d'être délétère pour lui parce que, évidemment, lui infligeant des images qui ne correspondent pas à sa maturité et à son développement.
Jimmy Mohamed, pardon.
Bah, c'est vrai que, par exemple, alors pour ne pas le citer, mais le journaliste avec qui on travaille, Benjamin Lévesque, nous dit qu'il a un accès plus facile à la tablette, à son téléphone, qu'il est souvent dessus, et que du coup, la tentation est plus importante d'aller sur les sites porno, puisqu'on a un accès facilité,
cadeau, hein.
Non ?
Alors, évidemment, Benjamin Lévesque, évidemment, quand il n'est pas en week-end, évidemment, heureusement, il travaille sur cette émission et donc un peu moins sur sa tablette, j'ose l'espérer, sinon le niveau de notre émission serait à déplorer.
Il travaille beaucoup et on l'embrasse, on le remercie. Il est encore dans les locaux, des survivants.
Voilà, donc c'est dire combien il est effectivement assez confiné, mais pas qu'avec sa tablette. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des moments où on tourne un peu en rond, on est tout seul et on est dans la frustration de l'absence des autres, et à ce moment-là, on veut se créer une sexualité comme pour que notre organisation habituelle n'ait pas changé, mais c'est à croire que la sexualité doit rentrer dans une habitude. La sexualité, c'est pas une habitude, c'est un accident merveilleux que l'on crée, c'est une opportunité. Et donc même Benjamin Lévesque, quand il ne travaille pas, eh bien il peut penser à d'autres choses, faire son ménage, réfléchir à cette émission, comment il va la faire évoluer, etc.
Et
penser
Catherine
à nous et aux petites blagues qui nous fera.
Et Catherine, justement, pour répondre quand même un peu plus concrètement à cette maman qui s'inquiète, qu'est-ce qu'elle doit faire du coup ? Parce qu'effectivement, si elle, en plus elle télétravaille, elle n'a pas forcément le temps de regarder tout ce qu'elle fait, tout ce que fait son fils sur sa tablette. Est-ce qu'elle doit mettre un contrôle parental, lui en parler, interdire l'accès ? Comment elle peut réagir très concrètement et rapidement, Catherine ?
Je crois que de toute façon, on ne peut pas s'immiscer trop dans la sexualité de nos enfants. Par contre, on a à le faire réfléchir, les bornes à ne pas dépasser, et peut-être se dire, je ne sais pas si tu as des questions, je sais que c'est un moment où on n'est pas très disponible, un moment où tu n'as pas tes potes pour pouvoir discuter avec eux, un moment où peut-être tu serais tenté d'eux. En tout cas, on est là. Et évidemment, selon l'âge, bien sûr, si nous avons affaire à un enfant qui a 12 ans, 13 ans, 15 ans, ou 14 ans, eh bien peut-être qu'on peut se dire qu'il y a des limites à poser, d'heures, et peut-être même si on sent qu'il y a une obsession sur un sujet et qu'il ne peut pas se parler autrement, peut-être aussi mettre des limites en effet de Wi-Fi.
Très bien Catherine, et juste c'est le moment aussi d'aborder l'éducation sexuelle, mais très rapidement, hein, c'est parce que là elle a du temps la maman aussi, même si elle travaille, on a plus de temps avec son enfant.
Alors, pas toujours sûr que les mamans aient plus de temps, pas toujours sûr que ce soit, je pense notamment au cas de mamans qui sont toutes seules avec leurs enfants parce que les papas sont confinés à d'autres endroits. C'est assez compliqué, ouais. Notamment quand ce sont des garçons, de pouvoir aborder ce sujet quand on est toute seule avec ses garçons, et idem pour les papas avec leurs filles.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. N'oubliez pas, demain, on sera toujours là chez vous en direct. Nous restons mobilisés. Envoyez-nous vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.